Je sais que vous aimez les histoires de bijoux. Alors aujourd'hui, je vous propose, juste après avoir écouté ce podcast, d'aller sur un autre podcast, La Voix des bijoux. C'est le tout nouveau podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef et Arpels. Il se présente en saison de 4 histoires, en version française comme en anglais. Et rien que dans la première saison, on y évoque le collier de Jeanne Dubarry comme les grilles de mariage de Rihanna. Je suis sûre que vous pensez comme moi. Des podcasts de bijoux, il n'y en aura jamais assez. Alors, pour écouter La Voix des bijoux, c'est sur le site de l'École des Arts Joailliers et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous le reconnaîtrez facilement sur votre application préférée, car la vignette, c'est la broche Ruby Lips de Salvador Dali, reproduite par Henri Caxton. Alors, à vos écouteurs. Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Simon, une famille de joailliers et un joaillier des familles. Je suis donc avec Simon-Pierre Rosset-Golé-Jacques. Bonjour Simon-Pierre.
Bonjour Anne.
Cette histoire de famille de joailliers, ça commence quand ?
Ça commence avec mon père, qui a commencé la joaillerie en 1950, à peu près, qui a travaillé pour des grandes maisons et qui s'est installé à son compte, ici même où vous êtes, Anne, c'est-à-dire dans un jardin au milieu de Saint-Germain-des-Prés. C'était son atelier pour recevoir les clients, mais aussi pour tout fabriquer sur mesure, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, pas loin du musée de la Croix. C'est un lieu assez exceptionnel. Et mon père a commencé ici, je pense, vers les années 1960-65, quelque chose comme ça. Mon père était très passionné. C'est un métier qu'il a continué assez tard, je crois jusqu'il est à peu près, on va dire, 65, presque 70 ans. Simon, il recevait les clients dans ce jardin. Il faut passer par tout un petit dédale de couloirs. Il faut connaître. Hein. C'est vraiment une adresse un peu secrète à Paris. C'est vraiment un joaillier, oui, de famille. Les gens le connaissaient. Ce n'est que du bouche à oreille. Parce que les gens, se donnaient l'adresse. Et voilà, mon père a toujours travaillé de cette façon.
Et donc, il s'appelait comment ?
Mon père s'appelle Alain Rosset. Et le nom de ma mère était de Golé-Jacques. Quand j'ai monté mon entreprise, moi, par la suite, mon père travaillait toujours. J'ai voulu qu'on n'ait pas forcément le même nom pour que ce soit plus facile, pour nous trouver, nous différencier chacun. Et donc, j'ai pris aussi le nom de ma mère. C'est pour ça que la joaillerie s'appelle Rosset Golé-Jacques.
Et lui, il avait appris son métier comment ?
À l'époque, ça ne se faisait pas à l'école. Alors lui, il a appris vraiment en apprentissage. Dans une maison qui s'appelait Rouvena, dans laquelle il a passé plusieurs années, qui vient de se relancer maintenant. Puis je crois qu'après quelques années, 5 ans, il est venu s'installer ici et il a démarré tout doucement, tout seul. Il fabriquait tout seul, à l'ancienne, sans les techniques qu'on utilise aujourd'hui de fonte et de choses comme ça. C'est ça qui est assez rigolo. Les techniques ont complètement changé. Ce n'était évidemment que des soudures au chalumeau. Maintenant, on arrive à faire des soudures aussi au laser, etc. Une technique à l'ancienne, sans toutes les technologies qui sont venues, quoi.
Et tu te souviens d'une de ces pièces ?
Je me souviens surtout de Pierre qui m'a montré. Nous, on habitait juste à côté, dans l'immeuble sur le jardin. Et je me souviens plusieurs fois être venu à l'atelier et qui m'est montré des saphirs assez exceptionnels, des pierres assez exceptionnelles. Donc c'est surtout ça dont je me souviens. Et ensuite, il faisait des bagues. On était quand même sur de la joaillerie plus classique, hein, à l'époque, ou des solitaires, ou des bagues entourage. Voilà, il y avait ces 4 pierres précieuses qu'on utilisait tout le temps, les diamants, émeraudes, rubis, saphirs. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit par exemple beaucoup de saphirs de couleur, de saphirs roses, de saphirs jaunes, de saphirs verts, etc. Toutes ces pierres n'étaient pas exploitées. Toutes ces pierres dont on parle beaucoup maintenant, qui sont les spinels, etc., n'étaient pas tellement utilisées. Mon père travaillait principalement avec des diamants, des saphirs, des rubis.
Est-ce qu'il, du coup, il travaillait l'or, le platine, c'était l'époque ?
Oui, ce que je continue à faire d'ailleurs, du travail exclusivement sur or et platine. Alors, les différentes couleurs d'or, hein, ça peut être or blanc, or jaune ou or rose.
Est-ce qu'il a eu des prix, des récompenses?
Je crois que sa récompense, surtout, ça a été qu'il y ait beaucoup de clients qui viennent le voir. Non, mais je me souviens de beaucoup de monde ici, malgré que l'endroit n'était pas facile à trouver. C'était fléché, mais il fallait passer par une cour, des petits couloirs, etc. Il y avait une petite salle d'attente avant ce salon de joaillerie qui est dans le jardin. Et mon rôle était non seulement de fabriquer les bagues, mais aussi d'aller ouvrir la porte, etc., et de recevoir les clients. Et je me souviens que dans cette petite salle d'attente, il y avait quand même pas mal de monde. Et ça, c'était une super récompense, ça, quand même.
Est-ce que du coup, tu es rentré dans l'atelier de ton père très tôt?
En fait, c'est un métier qu'on commençait tôt. À cette époque, moi, où j'ai commencé, je me souviens qu'à l'école, on ne pouvait pas rentrer après 18 ans. J'ai commencé chez lui vers 16 ans, donc en faisant un apprentissage aussi. L'apprentissage se passait évidemment la plupart du temps chez mon père, et je crois qu'on avait à peu près une journée ou deux de formation parallèlement à l'école du Louvre.
Il t'a fait commencer par quoi ?
Il m'a fait commencer par un truc qui était vachement particulier à cette époque, en utilisant un peu des outils qui étaient un petit peu dépassés pour me montrer comment est-ce qu'il travaillait à l'époque. Et je me souviens très bien, parce que maintenant on travaille avec des moteurs pour pouvoir percer, pour pouvoir travailler le métal. Et je me souviens qu'il m'avait fait travailler avec ce qu'on appelle un drill, c'est-à-dire une sorte d'outil qui marchait avec une corde et sur lesquelles il fallait pousser au fur et à mesure de haut en bas pour que cette corde vienne s'enrouler autour d'un axe central et faire tourner ce forêt qui perçait le métal. Donc c'était presque d'un autre temps. Mais c'était assez rigolo, c'était une expérience assez amusante.
Et donc il t'a fait commencer tout de suite dans le métal. Il t'a pas fait un truc genre fait d'abord du dessin, puis après de la cire, puis après de... Non, pas comme ça.
Non, parce qu'en fait, à l'époque, on faisait très petit. Les bagues étaient dessinées, gouachées. Mon père proposait différentes versions, différentes façons de monter cette pierre que les clients avaient choisie. Les gens choisissaient un dessin et on partait directement sur la monture qui était faite directement en métal. Alors moi, je n'ai pas commencé à travailler sur de l'or. Quand il a commencé à me faire travailler, c'était sur du laiton, des matériaux un peu moins nobles quand même. C'était vraiment de l'exercice. Mon travail, c'était surtout d'apprendre à utiliser tous les outils, limer correctement, pouvoir faire un repercé avec ses scies, des petites découpes fines. Et ça demande un très grand temps d'apprentissage, tout ça. Un joaillier qui était formé à cette époque était diplômé au bout de 3 ans ou quelque chose comme ça, avec des techniques qui étaient assez différentes et assez complexes, de soudure, d'emmaillement, de découpe à la scie, etc. Mais pour former un bon joaillier, il fallait entre 5 et 10 ans pour un vrai savoir-faire.
Et toi, t'as mis combien de temps ?
Je suis comme les autres. J'ai mis exactement ce temps-là à apprendre de mes erreurs aussi. Il y a un moment, effectivement, où quand il faut faire des soudures, il faut chauffer une bague qui n'est pas encore sertie avec les pierres, hein, qui ne sont que des parties en métal qu'on assemble. Une bague, c'est une sorte de petite architecture avec plein de fils. Les bagues à l'ancienne étaient comme ça. Il y avait un plateau, un anneau, et ce plateau reposait sur des petits fils. Une petite architecture comme ça. Donc il y a pas mal de différentes parties qu'il faut assembler avec de la soudure. Et je me souviens, effectivement, au début, j'avais dû chauffer un peu trop fort. Et la pièce avait fondu, quoi. Donc, fallait tout recommencer, voilà.
Qu'est-ce qu'il te disait ? Qu'est-ce qui est resté dans ta tête ?
J'ai eu pas mal de chance, parce que mon père a été un maître d'apprentissage, non seulement un super père, évidemment, mais un maître d'apprentissage pas trop sévère. C'est-à-dire que j'étais content de venir travailler ici. Ça se passait bien, travailler à trois. À cette époque-là, mon père travaillait avec un de mes oncles, qui était un joaillier expérimenté. On produisait et on faisait beaucoup de bagues sur mesure, comme ça, qui étaient toutes faites à l'unité. On partait d'un plané de métal, d'un plané d'or, qu'on mettait en forme. Tout était fait à la main, de tous ces fils qu'on tirait aux bonnes épaisseurs, pour pouvoir par la suite les souder, rapporter tout ça, rapporter aussi l'anneau de la bague, ainsi que les griffes pour faire tenir les pierres. Ouais, c'est un sacré travail.
Tu m'as dit, il est parti tard, et toi, tu as ouvert ta maison. Est-ce que ça a été concomitant ou est-ce qu'il y a eu un glissement ? Comment ça s'est fait alors ? Il a travaillé pour toi après que tu aies travaillé pour lui ?
Non, ça aurait été sympa. Je savais que mon père avait envie de travailler tard. qu'il aimait beaucoup son métier, il a bien raison. À un moment, j'avais envie de voler de mes propres ailes, et donc je me suis installé pas très très loin, pas dans le même quartier, mais presque. J'avais, je crois, à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, mais 25 ans, quelque chose comme ça. Je me suis installé dans la rue des Saints-Pères, en deuxième cour. Personne ne pouvait me trouver. Et en fait, comme je n'avais pas beaucoup de sous, je ne pouvais pas acheter beaucoup de pierres. Et donc, j'ai commencé en allant dans une niche un peu particulière. J'ai fabriqué des boutons de manchette. J'avais l'impression que ça n'existait pas sur le marché. C'était un produit pour les hommes que je trouvais amusant, un peu différent, un des seuls bijoux que les hommes puissent porter avec des montres. Enfin, j'ai commencé tout doucement comme ça, en faisant des boutons de manchette en argent. J'avais travaillé un petit peu pour Dior, un petit peu pour Zegna, etc. Et puis, par la suite, j'ai eu des collectionneurs de boutons de manchette assez rapidement. J'ai eu cette chance d'avoir des collectionneurs de boutons de manchette qui m'ont donné beaucoup de travail. Donc, on a fait des pièces assez exceptionnel en bouton de manchette, des trucs assez dingues.
C'est-à-dire, je me souviens, je crois qu'il y a une Rolls-Royce, c'est pas ça, en bouton de manchette?
Ah, il y avait une sorte de petite Bugatti qui est vraiment chouette, qu'on continue à faire sur demande. Mais ce qui est sympa, c'est que tous nos produits, que ce soit les boutons de manchette et maintenant les bagues, les colliers, les choses comme ça, tous ces bijoux précieux sur lesquels on donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire, on les fait en très peu d'exemplaires. Alors, on a fait des insectes, on a fait des abeilles très jolies, ultra raffinées et très belles, qui sont en or mat et en or brillant, et qui pourraient aussi être portées par des femmes, parce que c'est super joli. Et on a fait toutes sortes d'insectes, des scarabées, avec différentes couleurs, avec des patines d'or. On a fait aussi des coccinelles, parce que je travaillais aussi à cette époque-là beaucoup avec de l'émail, des petites grenouilles, mais des boutons de manchette, on en a fait de tout type. Ça pouvait être des dés à jouer, des cartes, des petits oursons, des têtes de chevaux. Puis on a travaillé pour beaucoup de monde. Puis on avait des intermédiaires de temps en temps. Je crois que le roi du Maroc, pas par notre intermédiaire, mais nous, en tant que fabricants, on a fait beaucoup de choses aussi de boutons de manchette pour lui.
Est-ce que tu as hérité un petit peu, quelque part, de la clientèle de ton papa?
Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé monter ma boîte une dizaine d'années avant que mon père s'arrête. J'ai monté un petit atelier où on était à peu près trois joailliers à travailler sous ma direction. Quand mon père a voulu arrêter, j'ai voulu évidemment reprendre aussi cette adresse dans le jardin. J'ai pris aussi un autre atelier sur la rue pour qu'on ait une visibilité quand même. Et oui, maintenant que je suis là, il y a toujours cette clientèle fidèle. Je crois que ça amuse beaucoup mon père quand je raconte que tel client est passé, parce que ça lui remet des souvenirs en tête, des parents, des oncles, de choses comme ça, de la même famille. C'est vrai que c'est toujours très plaisant de se dire qu'il a fait un travail qui est pérenne. Toute cette clientèle a besoin aussi d'être en confiance chez un joaillier. On vient chercher une pierre. On vient confier des pierres aussi de temps en temps à monter, c'est-à-dire que les gens viennent avec des pierres précieuses, nous laissent des pierres précieuses pour pouvoir fabriquer des bijoux. Il faut être vraiment dans une confiance avec son joaillier. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important.
Ce qu'on va raconter aux auditeurs, c'est comment on s'est rencontrés. J'ai fait un MBA au management du luxe à l'Institut national de gémologie et je devais faire un mémoire. Et en fait, tu avais eu la gentillesse de m'accueillir dans ta maison pendant un mois pour essayer, je veux dire, de m'apprendre quelques tours avec mes mains. Donc, j'ai fait un peu de dessin, j'ai fait un peu de gouache, j'ai fait de la cire. J'étais tellement nulle que vous m'avez donné de la plastiline. Enfin, bref, ça, c'est ma petite histoire avec toi. Et par contre, je me souviens parfaitement qu'à plusieurs reprises pendant ce mois, j'ai vu des clients franchir la porte, des jeunes hommes souvent, qui arrivait tout timide en disant « ben voilà, je suis le fils de madame ou de monsieur machin et je viens pour la bague de ma fiancée ». Tu avais fait la bague de fiançailles ou ton père de ses parents et lui venait pour son futur couple et c'était ça qui m'avait vraiment touchée à l'époque.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très plaisant. On suit les moments heureux d'une vie, ce qui est plutôt sympathique, parce que les gens viennent nous voir pour des moments plutôt sympas quand même. Ils viennent nous voir pour leurs fiançailles, pour leur mariage, pour des bagues de naissance, parce qu'ils ont envie de faire un cadeau de mariage, de 10 ans, 5 ans, 50 ans. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'apprécie de plus en plus, en fait, surtout. De retrouver ses clients, d'avoir vraiment de l'amitié pour eux aussi, quoi.
Alors justement, c'est une question que j'allais te poser. quand on se marie, on met une alliance. Quand on se fiance, souvent, c'est une bague. Et après, est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que, je ne sais pas, premier enfant, bracelet, deuxième enfant, collier, je ne sais pas, j'imagine. Dis-moi.
Traditionnellement, si je reviens à la génération de mon père, à 18 ans, toutes les jeunes filles avaient un collier de perles. Ça ne se fait plus tellement maintenant. En revanche, il y a aussi des fabrications de chevalières. Les jeunes femmes et les jeunes hommes, quand ils sont diplômés ou quand ils viennent d'être majeurs, les parents ont envie de leur retransmettre, juste de faire graver leurs armoiries sur pierre ou sur métal. Ça, c'est en règle générale souvent les premiers cadeaux, mis à part évidemment le baptême et des choses comme ça. Ensuite, c'est surtout évidemment beaucoup les bagues de fiançailles, les alliances, et par la suite, il y a aussi des bagues de naissance. Ça arrive que de vouloir fêter un anniversaire d'année de mariage ou tout simplement des 30 ans de leurs épouses. Vraiment, on les voit dans des occasions vraiment sympathiques.
Moi, j'avais une amie qui s'était fait faire un collier et à chacun de ses enfants, elle s'était fait faire un petit bonhomme qui représentait le garçon ou la fille et il s'accrochait au collier. Et donc, à la fin, elle en avait évidemment plusieurs.
Voilà, nous, on essaye de faire beaucoup de créations comme ça aussi, des choses qui ont un peu de sens. Je sais que sur ces bagues de naissance dont je parlais, il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que les enfants savent quelle bague leur mère ont eu pour leur naissance. Et donc, se l'approprie beaucoup, en fait. C'est assez rigolo. J'avais cette anecdote d'une mère qui ne trouvait plus sa bague de la naissance de sa fille. Et en fait, sa fille l'avait subtilisée, simplement l'avait mise sur sa table de nuit parce que c'était un peu sa bague à elle. Quoi. Donc, très mignon comme histoire.
Et donc, ce que tu me dis, c'est que c'est plutôt des bagues. On consomme beaucoup de bagues, nous, en France.
Il y a beaucoup de bagues parce que c'est un bijou qu'on porte beaucoup.
Je me souviens qu'au salon de Myrtille Mousson, mes créateurs joailliers, tu avais eu le prix du savoir-faire justement pour une bague.
Celle-ci, je m'en souviens très très bien de cette bague. Une bague qui était un buisson, un buis. Et on avait représenté une bague qui était toute ronde, comme ça, une sorte de dôme, tout en grenade savorite, qui ressemblait à un buis. On avait fait une monture extrêmement discrète, ce qui fait qu'on voyait que cette sorte de demi-sphère sur le doigt, qui prenait quand même pas mal de place, qui prenait presque une phalange. Et l'anneau, on avait fait quelque chose d'amusant, c'est qu'on avait fait comme si c'était le pot en terre. Donc on avait travaillé sur de l'eau rouge, et c'est vrai que c'était une très jolie pièce, avec une vraie complexité de fabrication. Pour laisser ces pierres tout en hauteur, sans qu'il y ait du métal trop entre les pierres, pour garder un peu de légèreté.
Ça faisait vraiment buisson de bouillie, puisque chaque verre n'était pas tout à fait le
oui.
même. Ça donnait une impression d'impressionnisme, en fait.
Oui.
Et cette espèce de corps de bague en peau, comme tu dis, permettait justement de poser la bague
oui.
sur la table directement.
T'as très bonne mémoire. T'as très bonne mémoire, parce qu'effectivement, ce pose qui était très amusant aussi dans cette bague, c'est qu'on pouvait la poser comme ça. Elle tenait. C'était une bague qui était assez facilement portable, quand même.
Et du coup, autour du buis, c'était rodier noir, si je me souviens bien.
Autour
justement.
Du buis, on avait fait pour que les pierres vertes ressortent. T'as une très bonne mémoire aussi, parce qu'effectivement, on avait fait exprès d'utiliser des pierres de différentes couleurs pour faire ressortir ce camailleux. Un vert plus clair qui faisait ressortir un vert un petit peu plus foncé, etc. On avait travaillé avec tout un camailleux de verre, de pierres rondes, assez proches les unes des autres, mais avec un tout petit peu d'espace. Parce que très souvent, les pavages comme ça se font entièrement sur des planées en métal, et donc ça donne cette impression de lourdeur. Et ce qui était très joli dans cette bague, c'est que toutes les pierres étaient un peu en hauteur comme ça, tout au même niveau, mais qu'il n'y avait pas de métal, encore une fois, entre les pierres, et ça donnait une impression un peu de légèreté. Et effectivement, on avait fait noircir le métal pour qu'on ne voit que le verre, pour faire disparaître ce métal, en fait.
Est-ce qu'elle est partie, cette bague?
Oui, c'est super. Je suis absolument ravi, en fait, que les gens puissent s'emparer de ça, parce que ce sont des objets vraiment artistiques, dans lesquels on a mis pas mal d'imagination, le plus possible de notre savoir-faire, des vrais savoirs techniques, des essais loupés qu'on recommence pour avoir quelque chose de parfait. Et je suis ravi quand quelqu'un peut se vanter presque d'avoir une pièce unique comme ça. Oui, je sais qu'il a et je trouve qu'elle a beaucoup de chance.
Et du coup, c'est pour ça que chez toi, il n'y a pas de collection, en fait. Il y a des bagues qui sont en forme de plume, il y a des bagues qui sont en forme de rond, il y a des bagues qui sont en forme de scarabée, il y a des bestiaires, il y a de l'abstrait, il y a des circonvolutions autour des opales avec de l'or blanc ou de l'or noirci. Il y a vraiment tout type de bagues parce qu'en fait, tu corresponds à un groupe pour une famille, pour quelqu'un précisément.
J'ai surtout pas du tout beaucoup envie de me limiter dans notre création et dans la diversité de ce qu'on peut proposer, ce qui est une des choses les plus amusantes de notre métier. Alors, c'est vrai que ça rend moins identifiables nos bijoux, mais en revanche, on a une proposition qui est large et nous, on arrive à garder tout le plaisir de notre métier, de faire des choses différentes, que ce soit des bagues plus classiques de fiançailles ou une bague scarabée qu'on a fait il n'y a pas longtemps, qui est une série limitée à 3 exemplaires, une série de 3 en or blanc, une série de 3 en or rouge et une série de 3 en or jaune. Et les ailes sont faites avec du cristal de roche, c'est-à-dire du cristal naturel. Et par-dessous, on a demandé à des lapidaires d'ajuster une petite plaque de nacre pour renvoyer la lumière. Ça donne un effet de chatoyance et d'iridescence, de renvoi de lumière, qui est hyper joli.
Alors là, ce ne serait pas une bague de fiançailles, ce serait plutôt une bague pour une naissance, hein, t'es d'accord?
Ça, c'est bague de naissance, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est très amusant, c'est que celle qu'on a fait en or rouge, on a mis de la nacre un peu rouge dessous, un peu brune, ce qui fait qu'il y a cette iridescence un peu dans les bruns rouges. On l'a sertie de diamant brun. Celle qui est jaune, les lapidaires l'ont fait avec de la nacre dorée et on l'a sertie de diamant jaune. Et la dernière étant or blanc, les lapidaires vont tailler de la nacre blanche et on va le sertir de diamant blanc. C'est super joli, en tout cas. C'est...
Et alors, tu crois que ton fils va reprendre la suite?
J'ai jamais voulu penser et pousser mes enfants à reprendre une suite. J'ai pas envie que ce soit une obligation. J'ai vraiment envie que ce soit un plaisir s'ils le font. Une passion. Faut être passionné pour faire ce métier. Faut aimer les pierres. Faut aimer la gémologie. C'est un vrai métier technique, mais aussi artistique. Et donc, faut vraiment le faire aussi par plaisir. Non, j'ai jamais voulu pousser mes enfants. J'aimerais bien qu'ils y viennent un jour, parce que c'est un des métiers qui est super riche, dans le sens du savoir, dans le sens de connaissance des pierres, de connaissance de la technique, dans cette créativité qui peut être sans limite, de cette relation à la clientèle qui est quand même super chouette. Non, mais mes enfants, je disais simplement que je ne veux pas les pousser, mais je pense qu'il y en a quand même 2 d'entre eux sur les 3 qui sont intéressés, intrigués. Et je crois qu'ils ont envie de faire leur parcours personnel avant peut-être de revenir à ce métier de la joaillerie.
Comme toi, donc.
Comme moi, et je crois qu'ils ont envie de garder ce savoir-faire familial et de suivre les clients des générations futures.
Ça restera encore une histoire de famille.
Bah oui, et puis tu reviendras pour les interviewer peut-être.
Bah voilà, où j'enverrai mes enfants.
Voilà.
Merci Simon-Pierre.
Merci beaucoup Anne.
Ainsi se termine cette histoire de Simon-Pierre, Rossé, Golé-Jac, famille de joailliers et joaillier des familles. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Nos prochains rendez-vous seront sur le podcast thématique « Il était une fois le bijou » en alternance avec le podcast « Brillante », celui des femmes de la joaillerie, et aussi ce podcast « Le bijou comme un bisou ». Faites-moi plaisir, soutenez-moi en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute et en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine. Et plein de bisous, comme un bijou.